C'est votre web radio.
Etaradio.fr.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
Nico, tu reviens Nico, tu...
Lundi 22 juin, lendemain de Route du Sud, bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
En direct du studio toulousain de CETA Radio pour débriefer cette Route du Sud à deux semaines même pas du départ du Tour de France. À mes côtés, Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
On a également Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et pour revenir sur sa Route du Sud, plusieurs invités ce soir. Le premier qui est avec nous, c'est Pierre Latour ou Pierre-Roger Latour du coup,
oui.
De l'équipe AG2R La Mondiale. Pierre, est-ce que tu nous entends?
Ouais.
Bon, la première question, mais c'est comment on t'appelle du coup? Parce que j'ai lu cette petite histoire, cette anecdote. Tu peux nous en dire plus?
Ouais, en fait, c'est Pierre, Roger, Marcel. J'ai trois prénoms, quoi. C'est trois prénoms différents. C'est pas Pierre, Roger. Enfin, c'est ouais, trois prénoms différents. Et en fait, c'est une fois sur. Un classement, il y a mon deuxième prénom qui est apparu, et après, ça s'est emballé, et c'est parti partout, en fait.
Donc, même sur le site de ton équipe, regardez, ils t'appellent comme ça, du coup, c'est Dan Vélo, voilà, t'as un nom civil à la maison, et puis un autre Dan Vélo, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Bon, donc, du coup, on va faire comme si on était à la maison, on va t'appeler Pierre. Donc, Pierre, la Route du Sud, tu as eu le temps de rentrer à la maison, justement, depuis la fin de l'épreuve hier?
Ouais, on a pris l'avion avec l'équipe à Toulouse et on est rentré à Lyon et ensuite je suis rentré en train jusqu'à chez moi. Donc, c'est bien passé.
Bonsoir, Pierre, Julien. Écoute, félicitations déjà pour cette surtout superbe étape samedi. Moi, j'ai eu l'occasion d'être dans le Balès. Aller suivre ton attaque et puis après ton avancement et puis ce regroupement avec ce sacré duo. J'écoute à la radio, j'avais la chance d'avoir Radio Tour. Quand j'écoutais les écarts, ça rentrait, tu reprenais un petit peu d'écart. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils laissent à distance pour qu'ils se crament la gueule et après ils ramassent derrière. Mais finalement, ils étaient comment? Enfin, ça avait l'air bizarre, quoi. Et toi, t'avais l'air vraiment très bien sur un nuage, basculer avec eux, c'était génial, quoi.
Ouais, c'est spécial de courir avec des coureurs comme ça et en plus d'être avec eux à la bascule du dernier col, c'est sûr, ça fait quelque chose. Et après, ouais, je sais pas, derrière, en fait, ils se regardaient un peu, du coup, c'est pour ça, j'en ai profité, moi. Je préférais monter tout seul que de subir leur à-coup pendant toute la montée.
Et c'est vrai que dans ces derniers 800 mètres, là, quand il y a ce fameux virage en épingle à droite, où la route s'élève davantage, on voit à un moment donné Contador qui ira derrière, on ne sait pas s'il va attaquer, puis il s'accélère un petit peu, et puis finalement vous passez tous les trois ensemble. À ce moment-là, quand tu passes au sommet, tu dis, est-ce que la victoire étape, elle n'est pas jouable?
Quand on arrive au sommet, je me suis dit, là c'est bon, parce que le plus dur est passé. Il y a le tour dans deux semaines, ils vont pas prendre des risques de fou dans la descente. Et en fait, si.
Eh ouais.
Donc, ça m'a surpris au début, mais c'est un gagneur, alors il fallait s'y attendre.
Justement, cette Route du Sud, on voulait savoir un petit peu comment tu l'avais abordée. Est-ce que c'était vraiment l'un des objectifs de ta saison ou tu étais venu là? Est-ce que tu étais vraiment venu dans l'idée de faire quelque chose?
Ouais, dans l'idée, j'étais venu pour faire quelque chose, mais après, je savais pas ce que je pourrais faire pendant la course. Déjà, si je faisais un top 10, j'aurais été content. Et donc là, sur le podium, je suis vraiment heureux, quoi.
Tu l'avais préparé particulièrement? Tu avais pu reconnaître un peu les étapes, peut-être?
Non, j'avais pas reconnu les étapes, mais j'avais bien préparé parce que... Récemment, j'avais fait le stage au Lautaret avec l'équipe et ensuite à la Toussuire. Donc, j'avais pu bien me préparer.
D'accord. Et...
Bon, bah, on savait déjà, puisque l'an dernier, si je me rappelle bien, tu faisais partie de Chambéry lorsqu'on était sur la ronde de Lizard, sur cette fameuse dernière étape où c'est Folie Froppe qui l'emporte. Oui. Et toi, tu viens prendre la deuxième au sprint, place au sprint où il y a ce fameux col de la Corde où ça fait qu'attaquer en permanence. Donc, on savait déjà que tu avais des capacités en montagne depuis bien longtemps, mais déjà l'an dernier, c'était confirmé. Donc, on peut s'attendre, dans les années futures, de te voir en tant que grand grimpeur de cette équipe.
Moi, je sais pas, faut laisser faire le temps, parce que après, j'avais vu en début d'année au Catalogne sur des courses ou en tour, c'était violent quand même. Ça faisait vraiment mal et donc ça repart à zéro quand on passe chez les pros. Enfin, être grimpeur chez les amateurs, c'est une chose, mais après l'être à nouveau chez les pros, c'en est une autre, il y a une grosse marche à franchir.
C'est certain, mais ce que tu as montré samedi, tu l'as pas, voilà, on l'a pas inventé. Je veux dire que t'as osé justement attaquer un moment peut-être où ils se regardaient peut-être, mais on se retrouve avec Contador et Quintana et oser aller attaquer, faut avoir un sacré panache pour le faire, quoi. Et surtout les capacités aussi.
Ouais, c'est sûr. Mais après, là, ouais, il y a eu le temps de flottement où ils se sont regardés qui m'a permis de faire ça. Et après, que ce soit eux ou d'autres, enfin, sur le coup, j'y ai pas trop pensé, en fait.
Guillaume.
Oui, bonsoir. Donc, moi, j'avais une question sur la montée du port de Balèze. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as géré ça vraiment aux sensations en essayant de t'accrocher avec Quintana ou Contador? Et où est-ce que tu as géré ça vraiment au capteur de puissance?
Non, Bonjour. J'ai vraiment géré ça aux sensations, en fait. Et ouais, je regardais pas le capteur.
Ouais, donc
en fait, je regarde pas trop le capteur en général.
D'accord, tu as essayé de t'accrocher voilà, tant que c'était possible. Et par curiosité, quel braquet tu as adopté pour faire cette montée?
Pour l'étape, en fait, j'avais pris une cassette de 11.32. Et dans la montée, après, elle est vachement irrégulière. Du coup, j'ai mis de temps en temps le 32 quand je restais assis et que c'était vraiment raide. Mais sinon, c'était plus... je devais être sur le 24 en général. Sur les parties roulantes, je pouvais remettre le gros plateau. Du coup, comme j'avais le 32 à l'arrière, je croisais la chaîne un peu.
Et devant, devant, tu as combien devant?
39, 53, 39.
Ouais, pour les connaisseurs, ça parle. Nico, toi, tu connais rien, mais bon, pour les connaisseurs, ça parle.
Justement, Pierre, la suite de la saison, on imagine que la forme est là. On imagine aussi que peut-être pour cette première année de pro, ça fait un peu court pour toquer à la porte du Tour de France. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments que tu as coché cette année?
Ouais, dans peu de temps, dans une semaine et demie maintenant, il y a le Tour d'Autriche. Et ça, ouais, c'est un objectif aussi. Après, faudra voir les sensations, si j'ai bien récupéré de la route du Sud et du France. Ensuite, je couperai et après, en août, tu as encore pas mal de belles courses.
Voilà, pour préparer un premier grand tour comme une Vuelta, ça fera peut-être un peu court sur une première année. Peut-être que les directeurs sportifs, les entraîneurs ne sont pas pour ce genre de choses.
Ouais, normalement, il n'y a pas de grand tour prévu.
D'accord, mais en tout cas, c'est quoi en quelques mots, tout simplement, comme tu sais faire d'ailleurs dans les réponses, c'est très intéressant. Quel mot tu mettrais sur ces premières années dans l'équipe AG2R, sur ces premiers mois dans l'équipe AG2R?
Avec l'équipe, ils nous permettent de vraiment nous exprimer au maximum avec tout le staff, et puis ça permet de vraiment découvrir le haut niveau, quoi. Qu'il y a un beau calendrier de course et ils nous permettent de bien progresser palier par palier quand on est jeune.
Bon, mais en tout cas, Julien, ça promet de belles choses. On va remercier Pierre.
Très humble dans ce qu'il raconte. Donc non, vraiment, chapeau. J'espère que c'est que le début. Et puis, oui, Nico.
La dernière question quand même, il a côtoyé de plus près, on ne peut pas, Contador et Quintana. C'est qui ton favori du tour, Pierre?
Je pense quand même Contador, parce que c'était lui qui essayait le plus là dans la montée. Mais après, c'est encore dans un petit moment le tour. Et puis, ça dure 3 semaines, donc il peut y avoir pas mal de renversements de situation. Puis, il y a Froome aussi qui était quand même pas mal en fin de Dauphiné.
Bon, ça
aussi les leaders de l'équipe, Romain et JC.
Ouais. Bon, mais ça promet en tout cas de belles choses pour ce mois de juillet. Pierre, on va te remercier. Merci d'être passé dans Radio Vélo en tout cas.
Merci à vous.
Merci et à bientôt.
Merci,
au plaisir.
Bonne soirée. Voilà. Merci, ciao.
Bonne soirée. Donc c'était Pierre Latour de l'équipe AG2R mondiale qui a été le Français le plus en vue, même si Brian Coquart a gagné deux étapes, bon, c'est pas mal aussi quand même. Mais pour le général.
Alors le plus en vue, oui, puisque
la révélation de la Route du Sud.
Oui, la révélation de la Route du Sud. Là présent, surtout cette étape de montagne est très difficile le samedi. Maintenant, on avait annoncé aussi Rossetto qui chaque année est là présent, hein, qui vient prendre la quatrième place du classement général.
Je l'avais dit. Hein.
Tu l'avais dit. Notre Bélou officiel aussi qui vient prendre un top 10. Voilà, il y a eu une belle étape, une belle échappée qui s'est faite donc sur le dès le départ très rapide samedi d'Isaour. Donc il y avait une première partie qui arrivait donc à Luchon avant d'attaquer le Peyre-Sourde et le haut Balesta, puisqu'en fait en haut de Peyre-Sourde, hop, ils prennent à gauche, ils vont jusqu'à la station. Donc une échappée où la Saxo Tinkoff a roulé plein pot puisqu'ils avaient 4 minutes 30 de retard en bas du Peyre-Sourde et en haut de Balesta, ils basculent avec une 30 de retard, donc ils ont comblé quasiment 3 minutes dans la montée. Une grosse montée de la formation de Saxo Tinkoff avec un peu d'appui des Movistar, mais on dira que très peu. Et quand ils ont basculé, après ils ont monté le Valoron Azé. Et là où ça m'a impressionné, c'est que dans le Balès, je crois qu'il restait 10 bornes à monter le Balès. Il n'était plus que 17 coureurs qui composaient le peloton maillot jaune. Il y avait plus personne. La messe était dite. On savait très bien que les Saxo et les Movistar avaient fait tout le travail et que allait avoir lieu l'explication entre Contador et Quintana. Mais jamais on n'aurait pensé que Pierre Latour serait venu brouiller les cartes un petit peu. C'est vrai qu'il a fallu que les deux s'emploient pour revenir sur Pierre Roger, parce que ils sont revenus à 8 secondes et puis après c'est reparti à 10, 15 secondes. Et puis je voyais bien que Contador voulait aller gagner l'étape, mais il fallait quand même faire de gros efforts et pas non plus trop se découvrir pour Quintana. Donc c'était un petit peu chaud. On va justement avoir Guy Deschanel, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale.
On parlait de Pierre Latour, avec Pierre Latour il y a quelques instants, et donc c'est son directeur sportif qui était avec lui sur cette route du Sud, Didier Janel, qui est avec nous. Didier, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends. Bonsoir à tous.
Bonsoir, monsieur Didier Janel. Comment il va?
Bonsoir, Julien. Ça va bien.
Bon, oui.
Pour une fois à la maison, j'ai envie de dire, et je suis pas rentré très tard, et ça fait vraiment, vraiment plaisir, quoi.
Et ça fait un petit moment que je voulais t'avoir, c'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit dans Radio Vélo, parce que voilà, on a vécu une belle route du Sud. Je pense que toi, dans la voiture, raconte-nous un peu, parce que l'étape de samedi était passionnante.
Ouais, l'étape de samedi, puis c'est vrai qu'on sent que la course, la route du Sud monte en pression, qu'il y a de plus en plus de médias, et puis de suiveurs dans cette course, d'invités. Donc la télé fait vraiment de bien avec Eurosport, je pense à l'organisateur et à son épreuve. Voilà, après, elle monte crescendo. Je pense quatre étapes, trois étapes vallonnées difficiles quand même, parce que c'est jamais bien plat par où on est passé. Des arrivées un peu techniques, et puis une grosse étape, comme tu dis, Julien, samedi, avec un général, une étape que tout le monde attendait. Et qui a répondu présente d'ailleurs cette étape, puisque on a vu une très belle course et en particulier de Pierre Roger, même si on attendait Nairo Quintana et Alberto Contador, on a été surpris de voir un jeune français que peu, à mon avis, peu de gens connaissaient. Nous, on connaissait ses qualités et j'avais déjà dit à Eurosport que c'était un de nos coureurs qu'on pensait retrouver samedi dans la montagne, parce qu'on savait que c'était un très bon grimpeur. Et voilà, mais on l'attendait honnêtement, on l'attendait pas à ce niveau-là. Pour moi, il avait sa place dans les 10 premiers au général, ce que je lui avais dit. Et je lui avais demandé de faire attention, de pas s'enflammer dans ce port de Balès, à vouloir suivre à tout prix Contador et Quintana, ne pas se mettre violet et puis exploser et perdre du temps. Intelligemment, il a attaqué et il a pris, il a anticipé le mouvement.
C'est
ta
radio. Pop, rock,
sport.
La Ronde du Lizard l'an dernier, quand il fait deux de la dernière étape, où on monte les trois cols.
Un beau tour de l'avenir aussi.
Un temps difficile, et il s'est attaqué, ça faisait qu'attaquer, donc on voyait déjà qu'il avait des capacités, quoi.
Ouais, tout à fait. Il a sa première grosse capacité, c'est de grimper, hein, d'être un grimpeur. Après, on attend de voir un petit peu comment il va se comporter dans l'effort solitaire, dans les contre-la-montre, pour savoir si effectivement c'est un garçon qui est capable de jouer classement général sur les courses par étapes où il y a souvent des contre-la-montre individuels. Bon, je pense qu'il y a un peu tous les domaines à travailler, mais on sait que son domaine de prédilection, ça reste le contre-la-montre, la montagne. Voilà, donc moi je suis confiant. Je pense qu'il ressemble, mais il a un petit peu le cursus de Romain Bardet, hein, qui viennent tous les deux du centre de formation de Chambéry. Voilà, et je pense qu'il a un très gros moteur, Pierre-Roger Latour, mais il faut pas brûler les étapes, faut pas s'enflammer, il faut faire ses gammes, il faut apprendre, se construire. Et puis il y a beaucoup encore à dégrossir. Il y a sûrement une petite pépite, mais il va falloir la tailler mois par mois, année par année. Et puis s'il travaillait bien ça, je pense qu'on, un peu à l'image de Romain. On l'a vu comme ça, brut, hein, très bon grimpeur. Il s'améliore dans le contre-la-montre. On l'a vu au Romandie, où il prend la sixième place du contre-la-montre individuel. Bon, voilà, je pense que petit à petit, on a un garçon qui ressemble au profil de Romain Bardet. Et donc, on peut espérer pour lui une belle carrière s'il continue à suivre les conseils, à s'entraîner et être sérieux dans son métier de coureur cycliste.
Très rapidement, avant de vous remercier de vous laisser en famille, on sait que c'est l'heure des sélections pour le Tour là dans les 10 jours qui viennent. Première question, est-ce que vous êtes sélectionné, Didier? Vous allez sur le Tour ou pas cette année?
Ouais, même si j'ai fait un saut de puce, je vais pas faire le Tour de France. J'ai un rendez-vous déjà avec Pierre-Roger Latour au Tour d'Autriche,
donc, d'accord,
au début du mois de juillet. Et puis après, moi, je fais un autre grand tour, qui est le tour d'Espagne, la
Vuelta.
Donc, je suis bien pris pour ces mois qui viennent, avec la classique San Sébastien, le Tour de Burgos, et puis la Vuelta. Donc, toutes les préparatifs pour ce grand tour, qui sera le dernier de la saison.
D'accord.
Voilà. Et puis une fin de saison, on finira un peu sur les mêmes courses. Bon, voilà, c'est un métier où nous, on est déjà parti environ 170 jours dans l'année sur les courses cyclistes. Et c'est pour ça que je disais en aparté en commençant, on est bien content de rentrer le dimanche soir à 7h à la maison, ce qui est très très rare.
Bon, ben voilà, remercier Didier pour
merci
sa disponibilité.
C'est l'heure de la pub pour nous, il faut qu'on fasse la petite coupure. Merci, merci beaucoup infiniment d'être passé dans Radio Vélo.
Et à bientôt.
Pas de soucis, Juju, quand vous voulez, c'est moi qui vous remercie.
Merci,
j'attends. Merci Didier, à bientôt. Et donc c'était Didier Janel, petite coupure pub et on revient tout de suite après. On continue sur la route du Sud.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Carla retourne. Retourne-la.
Radio Vélo Route du Sud. Le débriefing de la Route du Sud continue et après avoir eu Pierre Latour et Didier Janel pour revenir sur la superbe performance et du coureur d'AG2R la mondiale, une autre personne qui a suivi la Route du Sud de l'intérieur et notamment sur cette très belle étape de Saint-Denis, c'est Thibaut Land. Thibaut, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo, Julien, Thibaut qu'on avait reçu même l'an dernier.
Oui, on l'avait reçu, puis on s'est retrouvé presque au sommet du Peyrosourde déjà dans un premier temps, et après on s'est retrouvé au même endroit au niveau du port du Balès. Et voilà, on va voir un petit peu ses impressions, qu'est-ce qu'il en a pensé, un petit peu tout ça quoi.
Thibaut, alors c'est vrai que tu as suivi, c'est ça, une journée dans une voiture en plus d'un directeur sportif?
Oui, j'étais donc dans la voiture de Marseille KTM 13 pour l'étape de dimanche, après avoir suivi l'étape de samedi, donc comme le disait Julien. Ouais.
Donc un week-end à suivre de près, la seule grande course du Grand Sud-Ouest hein, chez les professionnels, mais aussi certains copains, c'est ça?
Oui, voilà, bon, moi je suis très ami avec Julien Loubet. Et donc on avait goupillé ça depuis plusieurs mois déjà avec Freddy Le Carpentier, son directeur sportif. Et donc voilà, j'ai pas raté l'occasion de voir la course de l'intérieur, sachant que c'était quand même un des grands objectifs de Julien de ce début d'année.
Alors justement, Julien, on l'a vu la semaine dernière avec nous, il nous avait confié ses ambitions et puis surtout ce qui nous avait fait plaisir, c'est son sourire jusqu'aux oreilles qu'on entendait dans la voix, cette envie de faire la Route du Sud, ça faisait plaisir à entendre. C'est quoi le bilan? On imagine qu'il aurait aimé faire mieux, mais c'est déjà très très bien, non?
Oui, bien sûr, bon, je parle un peu pour lui, mais...
Oui, justement, on se permet de te poser la question parce que ce doute, vous avez dû en discuter,
Oui, bien sûr, mais non, le bilan, il est très très positif. Le niveau était quand même très relevé sur cette route du Sud, avec deux vainqueurs potentiels du Tour de France. Donc un top 10, voilà, c'est l'objectif est rempli pour lui. Même si évidemment, connaissant Julien, il aurait aimé faire mieux, mais bon, avec du recul, il peut être que satisfait de sa performance. Bon, après il perd, il prend une petite cassure hier à l'arrivée, donc il perd une place, il en perd une autre parce que dans l'échappée il y avait un coureur placé au général qui a fait les bonifications. Bon, il pouvait faire huitième, mais bon, huit ou dixième, c'est plus ou moins pareil, quoi.
Julien, une question, Guillaume, pour Thibaut, par rapport à cette route du Sud et puis les étapes que vous avez vécues en commun.
Ben, nous, c'est vrai qu'on était à côté, donc, sur le Perros Sourde où, bon, il y a eu cette échappée qui est partie dès le départ. Et puis après, bon, le gros, bien sûr, était concentré sur cette montée du Balès. On savait que ça allait se jouer là. Donc, on attendait d'avoir un petit peu des informations parce que j'avais, sur la moto, j'avais rien autour, mais on n'avait pas forcément la composition du groupe. Le peloton est arrivé, il y avait 17 pounons, mais on savait pas qui y avait dedans. C'était compliqué. On était dans l'attente jusqu'à que, on l'ait vu arriver après que les premiers soient passés. Donc, on était là avec les chronos, on mesure le temps, combien de temps. Et voilà, on était là presque à le pousser, quoi. Thibaut.
Oui, voilà. Exactement. Oui, c'est sûr que, bon, on guettait la moindre information, on n'en avait pas beaucoup. Voilà, difficile de suivre la course dans ces conditions. On espérait quand même voir passer Julien avec les meilleurs. Bon, il a été vraiment, vraiment bien, il s'est vraiment bien comporté. Donc, oui, c'est très satisfaisant, oui. Ouais.
Bon, l'un des autres enjeux du week-end, c'est de savoir si le hashtag Allez Belou avait été dans le top, les tops du week-end.
Il n'a pas trop fonctionné. Je pense que Max Massat n'a pas rempli totalement sa mission. Il devait écrire ça sur la route. Et,
il l'a pas fait.
Il n'a pas osé revenir au studio d'ailleurs.
Il n'a pas fait, il a oublié la bombe, il n'a pas fait.
Voilà. Bon, après, il a fait d'autres choses. Hein. Il a pu boire quelques bières par-ci par-là.
Il y en a un qui m'a dit elle m'a fait mal ça là, quand je l'ai doublé après la moto. Hein.
Ah, c'est lequel? En rouge ou en vert?
Un rouge, il m'a dit quand je l'ai doublé. Aïe, il m'a fait mal ça là. Hein.
Bon, ah, messieurs, ouais, ouais. Par rapport à la suite, peut-être Thibaut, ben, du côté du vélo, toi, est-ce que t'as continué ou pas du coup?
Non, ben, moi j'ai complètement arrêté, j'ai même plus de vélo.
Carrément, c'est radical.
Ouais, j'ai...
Par contre, je peux confirmer qu'il a un bon couteau qui coupe du saucisson et de quoi décapsuler des bières.
Peut-être le récupérer dans l'équipe radio vélo très vite.
Oui, il y a un bon, il y a bien voilà. Bon.
Bon, et
après, je fais plus de vélo, mais je continue à suivre quand même les résultats. Ouais, je m'intéresse toujours et puis Julien, Loïc et tout, Quentin Paché, des locaux quoi.
Qui étaient tous d'ailleurs sur la route du Sud et plutôt aux avant-postes, donc ce fut bien sûr un plaisir de suivre ça. On va te remercier Thibaut parce qu'on a une émission très 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 chargée, mais merci d'avoir pris quelques minutes.
Juste vous dire un petit mot, ce soir j'ai une grosse pensée pour David Escudé qui a perdu sa maman samedi et voilà, je tiens à lui dire encore une fois que je suis de tout cœur avec lui. Voilà.
Ouais, mais Radio Vélo se joint, tu me l'apprends, tu vois, pourtant je se connais très bien. Mais une grosse pensée pour David et à toute sa famille.
Voilà. Merci.
Merci Thibaut. Ben, c'est tout à fait normal. Et puis on te dit à bientôt donc sur une course ou à la radio. T'es toujours le bienvenu en studio.
À bientôt quand vous voulez.
À bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonsoir.
Et donc c'était Thibaut Land dans Radio Vélo, le spécial Route du Sud continue. Philippe, du côté de la Route du Sud, tu avais quelque chose donc d'autre à nous compter pendant que je téléphone au prochain invité.
Non, juste effectivement, moi j'étais à Saint-Gaudens et il y a une chose qui m'a fait plaisir. Déjà, il y a une équipe qui s'appelle Radio Populaire. Je sais pas si c'est peut-être une radio portugaise, c'est une équipe portugaise qui a gagné le classement par équipe.
Ben ouais, c'est ça. Oui, voilà. D'ailleurs, ça m'a surpris, une très belle performance.
Hein.
La deuxième fois qu'ils viennent, ils étaient venus in extremis l'année dernière.
Voilà. Et puis, une autre remarque que, effectivement, les coureurs sont très, très accessibles dans cette route du Sud. Et par contre, j'ai constaté que Contador, à l'arrivée à Saint-Gaudens, parlait beaucoup avec les gens, effectivement, avec les enfants en particulier. Il est resté très, très longuement à parler, à signer des autographes, alors qu'effectivement Quintana est rapidement monté dans son bus et après donc effectivement est parti, donc beaucoup plus de disponibilité de part de Contador. Est-ce qu'il a un peu plus confiance? Est-ce que Julien, ça c'est une attitude de quand on parle beaucoup aux gens comme ça avant une grande étape, est-ce que c'est une question de mentalité ou de confiance, ou est-ce que ça peut
déjà
quelque chose,
hein? Déjà c'est vrai que bon, c'est un coureur qui est très populaire, c'est vrai qu'on est limitrophe avec l'Espagne, donc il y a beaucoup de gens d'Espagne qui étaient là
pour le voir. Hein. C'est un petit peu son retour aussi à la compétition. Je pense que tout court a un petit peu besoin de ça, de se rapprocher un petit peu du public, de voir qu'il est autant apprécié. Et ça met en confiance de voir qu'on a toujours du monde derrière soi. C'est vrai qu'il sait se rendre disponible. Bon, après, Quintana, voilà, il avait peut-être d'autres... c'est deux personnes différentes. Quintana est quelqu'un qui est beaucoup plus fermé, beaucoup plus discret. On l'a vu l'occasion de l'interviewer. Il est toujours très humble, très, très renfermé. Et Quintana, c'est quelqu'un qui est différent, voilà, qui est... On le voit, il est toujours tout sourire. Oui, Nicolas.
Et justement, pour parler un petit peu de comment on a pu ressentir les coureurs, parce que c'est vrai que c'est toujours important, et la Route du Sud met le paquet de ce côté-là pour qu'il y ait vraiment une relation entre les coureurs et le public à quelques semaines du Tour. Nous avons au téléphone Aubin Lipke. Aubin, est-ce que tu nous entends?
Oui, salut Nicolas, salut à tous.
Salut Aubin.
Salut, et ben oui, tu as suivi pendant ces 4 jours de l'intérieur et ben cette Route du Sud, et on est en train de parler et bien de comment les supporters, les suiveurs ont pu ressentir Contador et Quintana. Et Philippe nous disait que Contador prenait beaucoup plus de temps hein, pour faire des petites photos, discuter avec les gens. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça?
Ouais, c'est vrai qu'on a vu deux favoris qui étaient vraiment proches du public sur cette Route du Sud. Hein. Je pense que déjà les gens. Le public qui aime le vélo à Midi-Pyrénées vient sur la Route du Sud pour voir les cyclistes et être très proche des cyclistes. C'est vrai que Contador, à chaque arrivée, prenait des photos, et on a même vu Quintana, à un départ, il me semble, prendre un bébé dans ses bras pour faire une photo. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une proximité avec le public, et je pense que ça les a touchés aux gens de Hoche, de Lourdes, d'approcher ces coureurs qui n'ont pas l'habitude de voir tous les jours.
Julien,
Sur ces 4 jours de Route du Sud, qu'est-ce que c'est qui t'a marqué le plus, toi?
Bon, je vais dire que ça va être la troisième étape, là, ce duel Contador Quintana avec Pierre Latour, parce qu'il faut l'appeler comme ça apparemment. Pierre Latour qui vient s'immiscer entre les deux.
Mais alors, est-ce que pour toi, tu as l'impression qu'on a eu un duel?
On a eu un.
Qu'est-ce qui s'est passé si tu regardes?
Sans langue de bois, Aubin, elle nous vend pas la super course. Ben, on le sait qu'elle est super.
Oui, il y a eu un duel parce que forcément, ils se sont retrouvés tous les deux. Mais est-ce que ça a été au prix de grosses attaques comme on a pu le voir dans certains tours où ils se sont attaqués l'un après l'autre? Sincèrement, ils ne se sont pas attaqués.
Non, ils ne se sont pas attaqués. Je pense qu'on le voit à la télé grâce à Eurosport que Quintana n'attaque pas du tout Contador. Et il a laissé travailler Contador, laissé Contador revenir sur la tour, mais pas aller le chercher. Et Quintana n'a pas voulu se dévoiler avant le Tour de France. Je pense que c'est plutôt ça. Il a pas trop envie de se montrer, de dévoiler ses cartes avant le Tour. C'est ce qui va en faire du coup un sérieux prétendant à la victoire finale.
Ouais, mais attends. T'es coureur, t'es un dossard. Ton employeur te paye pour gagner des courses. Hein. D'accord, il y a le Tour. D'accord. Mais une victoire, quand même, ça se refuse pas. Lui, Contador, comme tout à l'heure disait Didier Janel, quand il met un dossard, c'est pour aller gagner toutes les courses. Peut-être qu'il voulait pas se dévoiler, mais sachant qu'il descend quand même beaucoup moins rapidement que Contador, je pense qu'il y avait des choses à faire, peut-être pour essayer d'aller gagner cette étape. C'est une étape de montagne, la Route du Sud, même si c'est 4 jours, mais gagner une étape de montagne, ça peut que mettre en confiance à la main d'un tour.
Moi, je comprends quand même la préparation de Quintana. C'est fidèle à ce qu'il a prévu depuis le début. C'est son plan pour gagner le Tour de France. Ne pas se dévoiler, faire la préparation quand même au top.
On le sait qu'il sera là pour le Tour de France. Arrêter de faire du violon, là, on le sait qu'il sera là. Il nous le dit depuis tout le temps qu'il va se préparer, mais au moins qu'il nous montre un petit peu de quoi il est capable. Il se retrouve justement.
On le sait de quoi il est capable.
Mais justement, ça peut mettre qu'en porte-à-faux son Contador. Ça peut que lui montrer, attends, tu m'as attaqué, je t'ai mis une bonne. Et puis, ça peut que mentalement le renforcer. Alors là, oui, il a suivi Contador. Mais ça a été, en fait, voilà.
Contador qui sort du Giro et qui ne pourra pas tenir les 3 semaines du Tour. Ça ne se voit plus, ça n'existe plus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pris le loisir de gagner. Ce qui est pris n'est plus à prendre, Guillaume.
Ouais, moi je suis d'accord avec Nicolas, parce que est-ce que ça valait le coup que Quintana fasse une attaque, sachant que Contador derrière, dans la descente qui est derrière, je pense qu'il allait revenir, il est quand même meilleur descendeur. Est-ce que Quintana allait prendre après des risques dans la descente, au risque de tomber et de gâcher un Tour de France? Je pense pas que ce soit. Je pense qu'il a peut-être raison de se cacher. Et voilà, il a peut-être jaugé Contador sur toute la montée, et
J'ai été extrêmement surpris de voir Contador gagner la Route du Sud. Pour moi, ni Contador ni Quintana n'allaient la gagner. Pour moi, ça allait être quelqu'un qui avait moins de responsabilités pour les semaines à venir.
Mais bien sûr que non, avec une étape aussi difficile que l'étape du samedi avec des cols, comment tu veux que mec comme Contador ou Quintana ne va pas aller gagner la Route du Sud? C'est pas possible.
Preuve, c'est, ça n'a pas été possible, en effet. Donc là, tu as raison, pour le coup.
Non, mais c'est, ouais, mais même tout à l'heure, moi, je pense que j'ai raison. Moi, je suis pas d'accord avec vous.
Mais c'est, de toute façon, c'est mieux si tu penses que tu as raison. Parce qu'au moins, ça prouve qu'on est vraiment sincère dans notre débat.
Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Aubin, toi?
Non, mais Quintana, je pense qu'il cache vraiment bien son jeu. Après, je pense qu'il a pas voulu prendre de risque dans la descente du Balèze, qui est assez dangereuse. Il a un peu suivi, mais peut-être facilement. Donc, faudra voir, mais est-ce que il a pas fait exprès pour pas trop se dévoiler, ou pour peut-être est-ce qu'il a, il est encore pas sûr avant le tour, on ne sait pas.
On le voit quand même prendre un peu de risque, parce que dans un grand virage à droite, il sort très très large, il se fait surprendre. Moi, quand je prends pas de risque, je me fais pas surprendre dans les virages, quoi. Quand tu vois qu'il relance, qu'il prend une position aérodynamique pour pas trop perdre de temps, à un moment donné, de toute façon, qu'il passe deuxième ou troisième, à un moment donné, si tu gagnes pas, que tu passes deux ou trois, c'est pareil, quoi. Donc moi, je vous rejoins pas forcément.
Hein. Bon, sacré top 5, en tout cas, sur la Route du Sud avec Pierre Latour, qu'on avait eu il y a quelques minutes. Stéphane Rossetto, qui, je l'espère, a gagné sa place pour le Tour de France, tout comme Eduardo Sepúlveda, qui sera le leader de l'équipe Bretagne séchée. D'autres Français ont été pas mal. On parlait de la Ronde de l'Isard tout à l'heure, Julien. Un ancien vainqueur, Pierre-Henri Le Cuisinier, était pas mal sur l'étape Rennes. Hein.
Oui, il était pas mal. Oui, il était bien placé. C'est vrai que c'était l'étape où il faut être devant. Hein.
Au niveau de la Route du Sud, on va te garder pour dire un mot sur les favoris du Tour et le Tour de Suisse. Aubin, est-ce que tu avais une anecdote à nous faire partager en plus sur cette Route du Sud?
Juste un petit mot sur l'équipe communication, comme chaque année, avec en remerciant tous ceux qui ont ouvert à la tâche, avec Guillaume, Philippe, Maxime et notamment Kelly, la petite dernière de cette année, enfin une fille dans l'équipe communication, ça fait plaisir. Voilà, encore 6 jours passés, oui, parce que forcément on monte 2 jours avant la course pour tout préparer. 6 jours passés à l'équipe communication, un nouveau site internet que vous pouvez aller voir sur routedusud.fr et on espère qu'on aura encore plus de monde au bord des routes pour la 40e édition, parce qu'on a vu beaucoup de monde dans le dernier kilomètre du Balèze, une grosse ambiance, et ça a bien rendu à la télé, donc ça fait plaisir de voir tout ce monde, ça remercie aussi le travail qu'on fait. Quoi.
On sait que, oui Philippe, on sait que Eurosport a signé donc pour son partenariat pour 4 ans, donc jusqu'en 2019.
Oui, c'est ça, 2019 normalement, et mais avec la couverture qui va avec, l'hélico nous a livré de belles images. Voilà, donc non, c'est bien pour une course comme ça du Grand Sud-Ouest qui jusque-là était un peu passé sous silence, d'être mise en avant et qui se positionne comme positionner comme le rendez-vous incontournable sûrement avant le Tour de France. Quoi.
Et pour les 40 ans l'an prochain, Philippe, rapidement.
Oui, juste une petite image très très sympa, c'est la caravane publicitaire qui était là avec des voitures anciennes. Et c'est assez particulier, des vieilles Ferrari, des vieilles voitures anglaises et 3 magnifiques 2 chevaux dans la caravane publicitaire de la Route du Sud. C'était sympa et également beaucoup de gentillesse des mécanos, en particulier de la FDJ, qui m'ont bien renseigné alors qu'ils étaient en train de ranger les vélos après l'arrivée de l'étape. Ça, c'est quand même de la disponibilité, c'est sympa.
La semaine prochaine, présentation du Tour de France d'un radio vélo avec
la rétro,
lui garde sous le coude pour tout à l'heure et ses bouquins. La présentation du Tour de France la semaine prochaine d'un radio vélo avec les favoris Froome, Quintana, Contador, Nibali, Vanguard Rennes, Purito, je sais pas, Majka ou même Pinot. Un mot quand même avant de faire la chronique de Guillaume sur Thibaut Pinot.
Ça réagit
et le Tour de Suisse.
Ça réagit sur les Twitter, non, ça réagit.
Si ça parle de bière ou de saucisson, pas la peine de le citer à l'antenne.
Non, tu vois, intéressant droit qui dit Julien a raison, le contraire. Lui était étonnant, donc tu vois, il y a des gens qui m'ont
joué. Vu que c'est d'accord avec toi, tu les lis à l'antenne. Les autres sont passés sous silence.
Non, il y a un petit coucou à Tintin qui dit que lui, pour la Riégeoise de 2015, le 32, il va le mettre. Bon, oui, on peut penser qu'il va le mettre le 32. Il y a notre Max qui nous fait pareil.
Et merci bien évidemment pour tous vos tweets à longueur de semaine et tous vos petits messages. Un mot avant de passer aux deux dernières chroniques sur ce qu'a fait Thibaut Pinot du côté du Tour de Suisse. Il a gagné une super étape, il a été devant tout au long de l'épreuve et finalement battu par Simon Spilak au classement du général, mais aussi par Geraint Thomas et Tom Dumoulin suite à un chrono qui n'a pas permis pour lui envie de garder ce maillot de leader. On va pas demander à Aubin l'analyse du chrono parce qu'il était
occupé
sur l'autre course. Mais j'ai quand même été très surpris de deux choses. À la fois que Thibaut Pinot n'ait pas pu garder ce maillot parce que je pensais que c'était la bonne pour gagner le Tour de Suisse et pour ne pas être battu par des coureurs comme ça qui ne sont pas forcément les grands coureurs, les grands cadors de premier plan, même si Simon Spilak est un grand coureur. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais pas qu'il allait perdre autant de temps et de passer de, je crois, une trentaine de secondes d'avance à 45 de retard. Et donc la deuxième chose dont je suis surpris, c'est l'optimisme très très fort dont la plupart des suiveurs font office sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, où ils disent que non, c'est impeccable ce qu'a fait Pinot, il a fait son meilleur chrono.
Bon. Il a peut-être caché son jeu, comme vous disiez tout à l'heure.
Non, je pense pas qu'il se serait amusé à ça. Un Tour de Suisse, c'était l'occasion de gagner une grande course par étapes pour Thibaut.
S'il prépare son Tour de France, s'il veut bien le préparer, il est peut-être préparé. Il dit, je vais pas trop me montrer pour prendre la pression. C'est peut-être pareil, les gars, là.
Non, j'étais un peu surpris. Guillaume, tu veux t'exprimer sur le sujet?
Ouais, c'est vrai que il a fait une belle démonstration à Zolden. En plus, une étape difficile.
Il a
vraiment montré un sacré potentiel. C'est vrai que moi aussi, j'étais surpris au chrono qu'il perd autant de temps. Surtout qu'il avait fait un très bon chrono sur le Tour de France l'année dernière. Après, j'ai pas vraiment vu le profil exact du chrono. C'est vrai que c'est dommage, je trouve. Après, est-ce qu'il y a eu un coup de moins bien? Après, faut pas oublier, sur le Tour de France, ça va être un contre-la-montre par équipe assez court, donc c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Je sais que la FDJ s'est entraînée surtout au contre-la-montre par équipe, mais
c'est vrai que du côté de l'équipe française, il y a des difficultés sur les contre-la-montre par équipe. Donc
ouais, mais c'est vrai que c'est dommage pour Thibaut parce que effectivement, il méritait quasiment de gagner.
C'était une super année au palmarès.
Ouais, et là, il passe à côté. Bon après, je pense que lui aussi le premier est déçu. Mais
le matin, il avait dit qu'il parierait sur lui, et ça il dit pas d'habitude. Donc moi, j'étais même confiant, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, les mecs qui parient sur eux ou contre eux, comme Karabatic, moi ça me parle. Hein.
Oh là là, ne les compare pas, s'il te plaît.
Bien sûr que non.
Non mais moi, je suis plutôt de prendre l'avis des suiveurs. Je pense que Thibaut Pinot s'est vraiment très bien préparé. Je crois qu'il a perdu 1 ou 2 kilos, je crois, par rapport à l'année dernière. Ouais, ça soit pas trop à leur niveau.
Non, parce qu'il était déjà bien affûté.
Voilà. je pense qu'il s'est très bien préparé avec son frère et tout l'encadrement. Bon. Après, je pense qu'il s'appêche encore un peu en chrono. Bon après on a du mal à être bon partout sauf dans certaines équipes, mais moi j'y crois. Au moins un podium, je pense.
Au moins un podium sur le tour, ça serait un deuxième podium d'affilée. Aubin, on va te remercier. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire?
Non, que j'ai passé 4 jours magnifiques sur la route du Sud, hein, comme chaque année avec les 150 bénévoles. Je pense que c'est toujours un plaisir pour ceux qui peuvent le faire, de participer et d'organiser une course comme ça. Et voilà, bon, malheureusement, Radio Vélo n'a pas fait son direct comme il y a 2 ans sur l'étape d'Isaour-Luchon, mais en espérant vous voir l'année prochaine, quoi, pour parler de cette course qui le mérite.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette 40e anniversaire d'Euro du Sud pour l'année prochaine? On entendait tout à l'heure des gens qui annonçaient sur Vivre du Sport que ça allait partir vers Languedoc-Roussillon là-bas. Enfin,
jusqu'à là-bas, ça restera dans les Pyrénées, mais il y aura peut-être un détour là-bas.
Je sais qu'il y a nos amis d'un forum du groupe Eto qui voudrait une course sur 6 jours, mais Pierre Cobin, le président d'Euro du Sud, a confirmé que ça serait sur 4 jours l'année prochaine.
Et oui.
Et oui, que le parcours tendrait vers Montpellier aussi, avec le retour d'un chrono d'une étape en ligne sur une journée. Donc, faut voir, ça peut être intéressant. Et on verra aussi le plateau qui reviendra l'année prochaine. Et
ce qui se faisait déjà auparavant, déjà, ce contre-la-montre, on avait vu à l'époque la montée à Camp Basque, au niveau de Cotteret. Mmh. Donc, c'est toujours intéressant.
Mais c'est vrai que c'est ce qu'il dit sur ce forum là, c'est pas possible. Je n'en avais pas mot, mais je répondrai tout de suite que si il y avait eu 6 jours à la Route du Sud, il y aurait eu ni Contador ni Quintana. Il faut 4 jours à cet endroit-là du calendrier.
Il serait parti de finir, je pense. Effectivement, 4 jours, je pense que c'est le très bon format pour la Route du Sud.
Mais il y a pas débat parce que les organisateurs sont clairs et nets là-dessus. Merci Aubin, à très bientôt sur une course de vélo.
À très bientôt.
Salut. Et on continue et bien avec
un petit coucou à toute l'équipe de la Route du Sud,
à tous les bénévoles,
Pierre Cobain qui m'a reçu samedi là-bas, à Benji aussi qui faisait partie de la nouvelle structure de la ligne en place, la mise en place de l'arrivée avec Eurosport, donc un gros boulot a été fait. C'est vrai qu'on a vu de belles images, de belles arrivées, des fois très techniques, mais on s'est régalé.
Impeccable, on referme le chapitre du Sud, ça fait 45 minutes, soit une mi-temps, vu qu'on est en terre de rugby ici. Enfin, 45 minutes, c'est une mi-temps de foot, bien sûr, je m'entends. Et pour cette avant-dernière émission de la saison, une chronique, le retour de Guillaume.
Guillaume, pas l'argent.
Je sais pas, mais avec son petit baluchon de cycloblog et matos vélo, Guillaume est de retour avec une petite chronique. On l'avait pas revu depuis son périple au Dauphiné, on avait cru qu'il voulait y rester.
Presque, j'y serais bien resté, mais à un moment, faut bien rentrer. Donc, je reviens avec plein de nouveautés dans le sac. Par contre, aucun tarif, parce que c'est des nouveautés qui n'ont pas été encore annoncées. On a vu chez les pros, mais j'ai aucun tarif, donc pas de monnaie aujourd'hui. Donc la première, comme je l'avais déjà dit, le Critérium du Dauphiné, c'est souvent là où on voit des nouveautés au niveau des vélos. C'est ce que les marques présentent, enfin sortent en tout cas les nouveautés avant l'été, et puis c'est ce qui va être utilisé notamment au Tour de France. Donc la plus grosse nouveauté qui a fait parler d'elle au Critérium du Dauphiné, c'est un nouveau Trek Madon 9, donc qui va remplacer le célèbre Trek Madon qu'on connaissait dans l'équipe Trek. Donc c'est un nouveau vélo, surtout ce qu'il a d'innovant, c'est des freins intégrés. Alors pas tout à fait comme ce qu'on avait vu jusqu'à présent sur certains vélos, mais là Trek a poussé le concept très très loin. Donc j'ai pas encore énormément de détails dessus, mais ça semble vouloir dire que les disques, c'est pas encore qu'on les voit vraiment au sein du peloton professionnel pour moi, parce que là ils ont vraiment fait quelque chose de très poussé au niveau aéro et apparemment très efficace au niveau freinage. Donc on aura plus d'infos sur ce vélo qui sera présenté le 30 juin je crois, donc au début juillet on aura plus d'infos. Ensuite moi je suis allé du côté aussi de la FDJ, donc oui. On les connaît un peu. Ils avaient un nouveau Lapierre Aerostorm, donc c'est leur vélo contre la montre. On n'a pas énormément de nouveautés, sauf que les freins ils étaient intégrés sur l'ancienne version, avec notamment des freins sous les bases arrière. Et là tout remonte en fait, freinage avec étrier traditionnel au niveau de la fourche et au niveau des haubans. Ça c'est la mode, on va dire, qui revient. Tous les freins remontent traditionnellement maintenant au niveau de la fourche et des haubans. Sauf ce qui m'a étonné, c'est Scott qui va présenter un nouveau foil, le F02. Alors eux, ils présentent un nouveau vélo avec les freins sous les bases. L'ancien foil n'avait pas les freins sous les bases. Et puis là, tout le monde fait marche arrière, sauf Scott, qui va présenter donc un nouveau vélo avec freins sous les bases. Donc un peu étonnant. Après, autre nouveauté, Specialized. Alors là, pour l'instant, on a très très peu d'infos. Juste des photos vélo, des photos volées ça et là sur les courses. Specialized Venge. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le vélo aérodynamique de la marque. Et là aussi, ils ont poussé le concept assez loin au niveau des freins intégrés, apparemment. Donc moi, j'ai vu des brevets qui avaient été déposés par SPE. Il y aurait peut-être du freinage hydraulique dessus, mais à patins, donc pas sur les disques.
Comme le faisait Magura avant.
Ouais, comme même ce que fait Magura encore, d'ailleurs, sur chez Cervélo. Ils l'ont sur les vélos de contre-la-montre. Donc voilà, ça serait. Mais là, c'est un système très bien intégré dans la fourche. C'est un système propriétaire. C'est pas du freinage ni Shimano ni autre. C'est vraiment un freinage propriétaire. Donc là, je pense qu'aussi on aura des nouvelles cet été. Il y a Cavendish qui l'utilise pour l'instant, qui apparemment serait le seul sur le Tour de France de son équipe à l'avoir, et Peter Sagan aussi qui serait le seul de son équipe à l'avoir. Donc il y aurait deux vélos comme ça sur le Tour à observer. Ensuite, Canyon qui présente aujourd'hui même, d'ailleurs, qui présentait officiellement un nouveau Canyon Ultimate CF SLX qui a été inauguré par Nairo Quintana sur la Route du Sud, d'ailleurs.
D'accord.
Donc je me suis déplacé à Auch pour le voir. Donc pas énormément de nouveautés, en tout cas esthétiquement, mais ils ont réussi à améliorer le confort, la rigidité, et ils l'ont allégé aussi. Ça c'est le nerf de la guerre chez toutes les équipes.
Et Movistar qui est en Canyon, c'est vrai.
Ouais, voilà, Movistar qui est en Canyon.
Alors que ça faisait longtemps que c'était Pinarello, si j'ai pas de bêtises. Avant.
Non, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont à Canyon.
Ouais.
Parce qu'il y a du nouveau par rapport au Fradisque qu'on discutait il y a quelques mois. Non,
j'ai pas essayé d'en discuter avec des mécanos sur. Pour l'instant, ils sont au courant de rien, même pas quand est-ce qu'ils vont tester. Donc, pour moi, pour l'instant, ils tâtent vraiment. Hein. C'est, même les coureurs, ils n'ont pas spécialement envie d'y passer pour l'instant. Donc, pour l'instant, pas trop de nouveautés à ce niveau-là. J'ai des infos sur le SRAM Red Wi-Fi. Sans fil qu'on voit depuis le début de l'année chez AG2R. Donc j'ai pu discuter avec une personne de chez SRAM, parce que chez AG2R, ils ont le droit de rien dire, donc ils disent rien, ils font très bien leur boulot, ils disent rien du tout. Le monsieur de chez SRAM, il parle un peu plus, mais pas beaucoup plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il sortira pas cette année. Il m'a dit non, cette année on n'est pas tout à fait prêt. D'ailleurs, effectivement, j'ai vu le dérailleur évoluer entre le critérium du Dauphiné et la route du Sud. Donc voilà, ils font encore des évolutions. Mais 2016, sûr, le groupe sortira en 2016. Donc du SRAM sans fil qui apparemment quand même fonctionne très très bien. Je pense que les défauts qu'ils améliorent, c'est vraiment du défaut mineur. Mais après, ils ne peuvent pas se permettre de commercialiser avec ne serait-ce que des défauts mineurs. Et enfin, si deux choses, oui. On parlait de il y a des rumeurs d'un groupe FSA électronique qui court depuis des années. J'ai interrogé deux mécanos d'équipe qui sont équipés justement en FSA. Alors, un, il en a jamais entendu parler. Pourtant, il est dans le peloton pro depuis quelques années. Il côtoyait même Contador. Et l'autre, il a vu un prototype il y a 2 ans. Mais un prototype non fonctionnel, depuis, il n'a plus rien entendu de parler. Donc, pour moi, le groupe FSA électronique, je pense qu'il va falloir encore attendre au moins 3-4 ans avant de voir quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est pas encore qu'on le voit.
Il y a du boulot.
Voilà. Et enfin, je sais pas si vous avez remarqué, sur le critérium du Dauphiné, tous les coureurs sous la selle avaient un espèce de tube qui dépassait. Non, tu l'as pas vu, je me souviens pas.
J'ai vu encore des casques un peu bizarres ces derniers.
Non, là c'était sous la selle. Il fallait regarder sous les fesses des coureurs.
Ah, mais je regarde pas trop.
C'est quand il y a des filles que tu regardes.
Voilà. Moi, ça m'a pas échappé. Ils avaient une balise GPS en fait. Et c'est, ça vient du partenariat qu'a lié ASO avec Dimension Data. Alors, je sais pas si on en avait parlé sur Radio Vélo.
Pas sûr.
C'est une société française qui est spécialisée dans la gestion des données, ce qu'on appelle le big data aussi. Et donc là, c'est un partenariat avec ASO qui est pour le Tour de France. Mais là, je pense qu'il faisait des tests sur le Dauphiné qui va permettre d'avoir beaucoup plus de données ou à la télé ou sur Internet sur la position des coureurs, la vitesse des coureurs. Alors pour l'instant, ils n'ont pas voulu en dire plus quelles données ils allaient transmettre. Mais chaque coureur maintenant a une balise GPS sous la selle. Toutes les données sont retransmises aux motos ou de
pour le téléspectateur du coup.
Voilà, ça sera pour le téléspectateur ou Internet.
Les mecs vont pas pouvoir dire j'étais à faux. Non, t'es pas faux.
Alors je pense que c'est pas encore qu'on voit la puissance. Ça c'est vraiment. Je pense que les.
Vas-y Nico, accélère Nico, vas-y tu peux y aller.
Voilà, pour les écarts en temps réel en tout cas, ça sera.
Voilà.
Oui, c'est déjà fait.
Je pense que dans quelques ou peut-être cette année ou même l'année prochaine, on pourra peut-être sur Internet aller choisir tel coureur et savoir exactement où est-ce qu'il se situe, ou dans le peloton, ou s'il est largué, ou s'il est échappé.
Ouais.
Ça, je pense, ça peut être très intéressant pour l'interactivité.
Comme un pro cycling manager. Hein.
Ben voilà, on va pouvoir. Alors, c'est pas encore qu'on va demander aux coureurs de se mettre à 400 watts, mais pourquoi pas dans quelques années. Mais voilà, c'est ça évolue. Je pense que ça va être pas mal pour l'interactivité, pour intéresser un peu plus les passionnés de cyclisme et de comme nous de puissance ou autre, plutôt que les commentaires de certains commentateurs que je ne nommerai pas.
Bon, voilà. Merci Guillaume pour cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour la présentation du Tour et puis les dernières infos. On te retrouve bien sûr sur ton,
pas de problème.
Sur tes blogs, cycloblog, Matos Vélo. On finit avec Philippe, la rétro et les bouquins.
Eh oui, le bouquin, un beau bouquin, c'est le bouquin de Jacques Augendre, c'est Petite histoire secrète du Tour. Alors il y a beaucoup d'anecdotes là-dedans, je peux pas vous les citer toutes, mais je vais parler un petit peu de radio. Et par exemple, c'est un bouquin par ordre alphabétique, donc c'est classé par ordre alphabétique, par exemple à Evian, effectivement, Evian, eh bien, ville qui a accueilli le Tour de France en 1930, et en 1930 a eu lieu à Evian le premier direct à la radio. C'était Jean-Antoine et Alex Viraud qui faisaient le premier direct en direct sur le Tour de France. Alors, on passe après effectivement au Tour de France, par exemple 1938, et on voit que monsieur Albert Préjean, qui était un acteur de cinéma, effectivement, et monsieur Jean Gabin, que je ne présente pas, qui était acteur de cinéma, et bien étaient consultants, c'était des passionnés de cyclisme, et ils étaient consultants sur Radio 37 qui était une station de radio à l'époque, pour commenter donc, le tour de 1938. Et ça a été les premiers consultants à la radio. Donc, vous voyez, des acteurs de cinéma qui étaient consultants. Et après, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres mondes. Par exemple, une anecdote sur au niveau de Robert Chapat. Eh bien, Robert Chapat avait été engagé par, après sa carrière, par Radio Monte Carlo. Et dans une étape de la route de l'Ouest, c'est pas le Tour de France, et bien, ils se sont trompés en branchant les micros. Et ils ont branché Robert Chapat sur le micro de la RTF. Auquel officier Georges Briquet. Georges Briquet est passé sur Radio Monte Carlo et Robert Chapat est passé sur la Radio Nationale et ils l'ont trouvé bon et ils ont embauché effectivement Robert Chapat à la Radio Nationale et après il a fini à la télé et lui c'était quand même un très bon commentateur à la télé Robert Chapat. Voilà un petit peu toutes les anecdotes qu'on peut retrouver dans ce livre. C'est uniquement le sujet de la radio mais il y a plein de sujets sur le cyclisme. Vraiment une perle ce bouquin. Voilà à lire en attendant le tour. En plus, c'est des sujets très très courts, donc on peut les lire très très facilement. Voilà.
Bon, mais merci Philippe. La semaine prochaine, on aura Pierre Carré pour présenter le livre sur les 40 ans du maillot à pois. Qui, oui, ça fait ses 40 ans. J'ai commencé le livre et je pense qu'on va se régaler avec cette présentation qui sentira bon le Tour de France. Merci Philippe pour cette rétro. On va peut-être aller commenter le tour du coup, parce que s'il se gourde dans les boutons, on passera peut-être à France Télé du coup.
Il y a des chances. Hein.
Ouais, bon, mais c'est pas faire pire.
Moi, je sais pas qui c'est qui s'occupe des branchements. Ils doivent être nombreux. Il doit y avoir des vérifs quand même. Voilà, la semaine prochaine, on vous l'a dit, émission spéciale Tour de France. Peut-être même 2 heures spéciales Tour de France. Ça reste à voir, à calculer avec le reste de l'équipe. D'ici là, les réseaux sociaux, bien sûr, @radiovelo31, le Facebook. Et puis, bah, les championnats de France. Les championnats de France de Chantonnay, 5 ans après, ils sont de retour là-bas où Vaucleur avait été sacré devant Christophe Lemével. Et bah, il y a notamment Tony Gélin qui a annoncé que ce serait ses derniers du côté de la FDJ. Il va raccrocher. Lui qui avait pris une médaille de bronze, je crois, sur les championnats du monde à Madrid, si je dis pas de bêtises, c'est ça, quelque chose semble. Comme ça, qui a remporté Boonen. Je me mouillerai pas, mais de mémoire. Et ben on parlera de tout ça la semaine prochaine.
Bien sûr, ça s'approche.
Et on parlera de ces championnats de France où on a aussi pas mal de coureurs chez les amateurs qu'on a reçus cette année dans Radio Vélo qui ont coché cette date. On n'en dit pas plus, mais ça devrait être sympa. Il y a, pourquoi pas avoir le vainqueur la semaine prochaine.
On a plein de coureurs Midi-Pyrénées qui ont remonté le classement Direct Vélo. Donc Romain Capisserou qui est là présent avec
et Poupou aussi,
avec Pouyès, avec Anthony Pérez et Lilian Calmejean.
Et oui, ils font la course à Calmejean qui était en tête il y a quelques semaines. Philippe.
Oui, juste à situer. Souhaitez quand même bonne route à tous les coureurs de l'Ariégeoise. Je crois que c'est samedi et ça va être super. C'est dans l'Ariège. Allez les voir passer parce que c'est une cyclo sportive, mais c'est quand même un beau spectacle.
Le podcast Radio